Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau, bonjour, heureux de vous retrouver en ce lundi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est donc le nouveau visage de l'Italie, Giorgia Meloni, à la tête de la plus grande formation du pays avec Fratelli d'Italia, son mouvement post-fasciste. Mais une victoire à la tête d'une coalition des droites avec laquelle il va falloir composer. Alors que toute l'Europe a les yeux rivés vers Rome, reviendra longuement après le journal de 12h30 sur ce qu'implique ce changement. L'exécutif français, lui, décidera d'ici la fin de la semaine pour les retraites. Pour l'instant, la réforme ne figure pas dans le budget présenté par le gouvernement. Un budget à l'euro près, insiste Bercy. Le procès Mia suspendu, les avocats de la conductrice demandent la récusation d'une présidente qu'ils jugent impartiale. Et puis l'inquiétude autour des Bleus après la défaite 2-0 hier soir au Danemark. Est-ce une cata qui s'annonce au Qatar? Englué dans les affaires en panne d'inspiration, les Bleus pourront-ils défendre leur titre de champion du monde? On fait le point après le journal avec Eric Silvestro.
Il y avait beaucoup d'absents quand même et de titulaires hier, donc ceci explique peut-être cela. RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on reste à Paris pour le coup d'envoi d'une tournée un peu particulière, celle du CNRS qui va enregistrer toutes les langues du pays. Et vous verrez, ça sert aussi à vos enceintes connectées. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui, on s'arrête sur les jouets star du Noël à venir. Il sera question de dinosaures. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, avec les confidences d'une star mondiale, Robbie Williams, et ses 80 millions d'albums déjà vendus. La question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous rallumé le chauffage chez vous?
Ah oui, il fait froid. Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs. J'ajoute donc cette question, l'union des droites est-elle possible en France? C'est ce que vous la souhaitez. Et puis vous sentez-vous en sécurité le soir, la nuit dans les rues? Une femme de 40 ans a été agressée puis violée à plusieurs reprises à Nantes samedi.
Avant ça, la météo avec vous, Louis Baudin, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour.
Même
à tous.
Si Pascal a un peu tué le suspense, bah, oui, il fait
degrés,
froid.
Bah, il fait frais, degrés, oui, oui, c'est vrai,
cette nuit, on restera
bloqué entre 14 et 17 degrés cet après-midi dans la moitié nord. C'est un peu frais, c'est même en dessous des moyennes de saison.
Comme tout le mois de septembre, visiblement.
17 et 22 degrés.
Ah, ben, il a fait plutôt frais en septembre.
Le début a été très chaud et puis début fin septembre est plutôt frais, effectivement. Tout ça avec beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, là, sur la moitié nord tout au long de l'après-midi. Ça finira par donner de la neige, d'ailleurs, en fin d'après-midi sur les Alpes du Nord à partir de 1500, 1700 mètres. Le sud restera relativement épargné, notamment le littoral méditerranéen. Attention au vent, 70, 80 km/h près de la Manche, encore sur les bords de la Méditerranée.
Merci, Louis.
RTL Midi.
Joie des partisans de Giorgia Meloni cette nuit, pressentie pour être la future première ministre d'Italie, la première femme à occuper un tel poste à la tête d'un mouvement post-fasciste. Mais Giorgia Meloni n'a pas gagné seule, Bénédicte Tassa. Ils sont trois partis dans cette coalition qui a remporté les législatives.
Oui, d'abord Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, 26% des voix, plus Forza Italia, le parti de droite de Berlusconi, 8% des voix, plus la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini à 9% des voix, avec non plus de 43% des voix. L'Alliance emporte donc une victoire franche, mais on voit bien que Fratelli d'Italia rafle la mise et prend le leadership de cette alliance. On voit surtout que le parti d'extrême droite de la Ligue s'effondre. 9% des suffrages contre 17% en 2018 et surtout 34% aux européennes de 2019. Un Salvini discrédité par ses éloges à Poutine notamment. C'est ce qui a contribué à normaliser Giorgia Meloni. Les trois leaders doivent maintenant se mettre d'accord pour constituer un gouvernement. Ça ne sera pas demain en Italie. Ça prend toujours au minimum un mois et encore. Ça peut aller jusqu'à trois mois. Salvini voudrait devenir ministre de l'Intérieur. Meloni n'en veut pas. C'est pas gagné. Et il est déjà acquis que début octobre, c'est Mario Draghi, l'actuel chef du gouvernement, qui représentera l'Italie à la rencontre de Prague, qui réunira toute l'Europe.
Merci beaucoup Bénédicte Tassar, chef du service étranger d'RTL. Bénédicte, on vous retrouvera après le journal de 12h30 pour revenir plus longuement sur cette victoire, sur cette coalition des droites, ce qu'elle implique et ce qui va changer désormais en Europe. En Russie, les manifestations contre la mobilisation militaire se poursuivent. Une fusillade a même éclaté dans un centre de recrutement. On y revient dans le journal de 12h30.
Les arbitrages ont été rendus. Le gouvernement a présenté ce matin son projet de budget pour 2023.
Et le ton est déjà donné par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Les vannes ne sont plus ouvertes. Le pays est à l'euro près, voilà ces mots. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Vous avez suivi la présentation de ce budget pour RTL tout à l'heure. Le quoi qu'il en coûte est bien terminé. Maintenant, il faut faire des économies et faire rentrer de l'argent.
C'est ça, des sous dans les caisses avec des réformes, la réforme de l'assurance chômage notamment, avec la lutte contre les fraudes, à commencer par les arrêts maladie abusifs des salariés par téléconsultation. Ils ne seront plus remboursés en 2023. Et puis, pourquoi pas associer taxes et santé publique ? Le prix des cigarettes va continuer d'augmenter. Un paquet de cigarettes va passer progressivement d'un peu plus de 10 euros aujourd'hui à 11 euros à l'avenir.
Le gouvernement doit composer avec un contexte économique particulier, une inflation forte. On continue quand même donc certaines dépenses de crise.
Oui, sur le chauffage et la lumière. En 2023, le bouclier énergie sera encore déployé sur les ménages. Les hausses de gaz et d'électricité seront bloquées à 15%. Pour une famille qui se chauffe au gaz, ça fait jusqu'à 25 euros de plus par mois et par ménage. C'est beaucoup, certes, mais sans bouclier, on parlerait de 200 euros de plus par mois. Des chèques énergie, des aides au fioul seront versées sous conditions de ressources, sans compter des hausses de salaire pour les fonctionnaires, des revalorisations de pensions de retraite et sur les aides sociales. Enfin, il restera dans les cartons une enveloppe de secours pour les automobilistes. Si jamais le prix du carburant continuait d'augmenter, la ristourne de 30 centimes pourrait se prolonger en 2023 pour certains foyers.
Et puis Anaïs, il y a cette grande absente quand même de la présentation, c'est la réforme des retraites.
Oui, si on s'en tient au texte du projet de budget aujourd'hui, rien n'apparaît. Mais le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le dit et le répète, la réforme des retraites se fera et entrera bien en vigueur en 2023. Comprenez, soit dès l'automne, par amendement, un texte ajouté dans le prochain budget, soit via une loi au printemps.
Merci beaucoup, Anaïs Bouissou.
RTL Midi.
Le procès Milas, suspendu ce matin.
Et les avocats de la conductrice du car scolaire, jugés pour s'être engagés sur un passage à niveau provoquant la mort de 6 adolescents percutés par un TER. Ces avocats donc ont déposé une requête en récusation de la présidente. Alors que l'accusé a dû être hospitalisé après son malaise en pleine audience jeudi, il dénonce l'impartialité de la présidente, Étienne Baudu.
Ah oui, les avocats de la défense ont cueilli à froid le tribunal ce matin. Avant même que ne soit évoquée la possibilité de la présence physique ou non de la prévenue, les avocats ont attaqué bille en tête la présidente. Vous avez tenu des propos qui nous font craindre un manque d'impartialité. Ils évoquent un échange de courriels sans plus de précision. Ce sera donc au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de statuer. Il devrait le faire cet après-midi. Soit la requête est irrecevable et le procès se poursuit, le cas échéant sans la conductrice, soit la requête est recevable et le procès devra reprendre à zéro ultérieurement. C'est impensable dans les deux cas pour Stéphane, le papa d'Ophélia, tué dans le drame.
Les avocats veulent gagner du temps, certainement parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Nous, on veut c'est que ça continue, pourquoi pas avec la visio, ce serait une bonne chose aussi. Il faut qu'elle entende ce qu'on a à dire et qu'elle nous voie aussi. C'est peut-être l'évitement aussi de sa part, parce qu'elle a peur d'affronter de toute façon les parents de victimes. Mais c'est compréhensible, hein. Quelque part, elle ne veut pas affronter la vérité. Nous, on est vraiment en colère.
Le procureur de son côté s'est levé pour tenser les deux avocats de la défense et parle de dérapage. Ils se perdent, ils veulent confisquer le procès. En concluant, entre impartialité et humanité, il y a un juste milieu à trouver.
Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Vivement le désert, c'est la une de l'équipe. Au lendemain de la défaite de l'équipe de France de football hier soir 2-0 face au Danemark pour son dernier match de préparation avant le mondial. Alors justement, les Bleus ont-ils les moyens de défendre leur titre dans deux mois? Est-ce un fiasco qui se profile? On y revient juste après le journal avec Eric Silvestro. D'autres Bleus, en revanche, ont brillé. L'équipe de France féminine de basket s'est qualifiée pour les quarts de finale du mondial après sa victoire 67-53 face au Japon.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous comme tous les jours, chaque jour l'info plus près de chez vous en France.
Et aujourd'hui, on vous retrouve à Paris en studio, Laurent Marsic, avant une grande tournée dans toute la France, pas la vôtre Laurent, non. Celle du camion Écoutez Parler du CNRS et du ministère de la Culture. L'enjeu, Laurent, c'est de collecter, d'enregistrer toutes les langues parlées dans notre pays.
Exactement, figurez-vous que tout a commencé il y a 100 ans, quand on a pu commencer à enregistrer la parole. Un linguiste qui s'appelait Ferdinand Bruno a eu l'idée de sillonner la France avec un camion enregistreur. En 1912, par exemple, il gare son camion laboratoire dans le Berry et il enregistre deux dames qui discutent. Olivier Baude est enseignant-chercheur en linguistique au CNRS.
L'idée, c'était ça, c'était de se dire les langues sont en train, toute cette diversité est en train de disparaître et on peut, pour la première fois, l'enregistrer.
100 ans après, le CNRS et le ministère de la Culture lancent donc une nouvelle tournée, l'idée étant de voir comment les langues de notre pays ont évolué. Olivier Baude.
Il y a plus de 600 langues qui sont aujourd'hui transmises sur l'ensemble du territoire. Il y a des centaines de variétés comme ça qui existent. Donc on va les collecter, aller voir les gens, leur dire venez, venez dans le camion, venez discuter avec nous, on enregistre et on conserve ces enregistrements.
On décortique ensuite les accents, le lexique, le vocabulaire, la tournure des phrases. Tout se passe dans un camion, donc avec des petits fauteuils, café est offert, une borne enregistreuse au milieu.
Vous voyez, on rentre dans le camion, eh bien, on demande aux gens de s'asseoir et de discuter. Eh bien, l'ensemble de ces conversations sont conservées, sont traitées sur des plateformes technologiques du CNRS pour qu'immédiatement, des chercheurs, quelle que soit leur discipline, puissent travailler dessus. On a d'une part le son, et après on a tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour décrire les langues. Donc on passe par de la transcription, et on a aussi les syllabes, les phonèmes, et puis la description de la syntaxe, de la grammaire qui est utilisée, etc. Et donc c'est l'ensemble de ces données qui sont disponibles pour la recherche.
Même si j'ai l'impression, Laurent, qu'il y a quand même une uniformisation de la langue, avec des patois sans doute qui disparaissent. Alors il y a l'aspect patrimonial, évidemment, mais ces enregistrements, ils ont aussi une visée très pratique.
Exactement. Pour l'industrie du langage, c'est tout simplement l'assistant vocal de votre téléphone, Siri.
Il y a même maintenant des industriels, du côté des technologies du langage, qui utilisent ces enregistrements-là avec de l'intelligence artificielle pour justement créer des bases de données importantes pour qu'on puisse parler à son téléphone avec un accent de Bretagne, du Nord, du Sud, sans que le téléphone vous renvoie en disant « je comprends pas » parce qu'il faut parler que le français normal.
Désolé. J'ai un peu de mal à comprendre pour l'instant.
Voilà, ça marche pas avec les accents.
C'est quoi l'accent de Bretagne?
Si t'es dans la foulée.
Ça, je voudrais bien qu'on m'explique ce qu'est l'accent de Bretagne. L'accent du sud de la France, je veux bien, mais l'accent de Bretagne.
Mais ça, c'est parce que vous êtes breton.
C'est pour ça, vous
c'est entendez. Possible. C'est possible. Laurent, il part où le camion après Paris? Ben,
prochaine étape, les Hauts-de-France. Il faut dire qu'il y a du boulot là-bas, souvenez-vous.
Bonsoir, Biloute.
Il va faire tout le tour de la France, ces camions, pour enregistrer ses voix.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Et M. Silvestro est évidemment déjà dans ce studio pour nous parler de l'équipe de France. Bon, on va essayer de relativiser quand même. Il manquait des titulaires hier soir, mais on va en parler dans une seconde.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Terminé. C'est fini sur cette défaite de l'équipe de France. Elle est dure, elle est sèche, elle est nette, précise et sans bavure. 2-0.
Vous l'avez vécu hier soir sur RTL, cette nouvelle défaite effectivement pour l'équipe de France hier soir face au Danemark, 2-0. Les hommes de Didier Deschamps qui ont multiplié les contre-performances ces derniers mois, qui montrent certaines limites dans le jeu. Et ça, à moins de 2 mois de la Coupe du Monde au Qatar, les Bleus peuvent-ils conserver leur titre? Faut-il s'inquiéter? Pour en parler, Eric Silvestro nous a donc rejoint en studio. Bonjour.
Bonjour à tous.
C'était pas rassurant hier soir, ce que les Bleus ont montré. Ça veut dire qu'on court au fiasco ou faut pas trop s'affoler?
Il faudrait peut-être qu'ils montent dans le camion de Laurent Marsic pour parler le même langage, celui du football, les Bleus, parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas ça. Une seule victoire lors des 6 derniers matchs, c'était contre l'Autriche il y a quelques jours. C'est vrai qu'il y a quand même de quoi s'inquiéter. Il faut pas se voiler la face. L'équipe de France, son niveau a baissé, sa qualité de jeu a baissé. Il y a beaucoup d'interrogations autour de l'équipe, autour du système, autour du sélectionneur, autour de toutes les affaires qui entourent le football français. Donc oui, il y a de l'inquiétude.
Les affaires, mais... ça n'a pas de rapport avec le niveau de jeu.
Mais si, parce que quand dans une fédération, il y a des soucis, quand le sélectionneur est sous pression, quand il y a des affaires avec des stars de l'équipe, Pogba et tout ce qui se passe autour de lui, tout ça ne permet pas un climat parfait dans le football français. Et même si après les joueurs, quand ils sont entre eux et qu'ils rentrent sur le terrain, évidemment, ils font abstraction de tout ça, le contexte général n'est pas très favorable. Il était déjà moins bon sportivement parlant, mais après, il y a les blessés. Ça, on va en parler. C'est vraiment, voilà, on va s'accrocher à ça avec le retour des cadres qui seront là pour la Coupe du Monde, en tout cas certains, comme Benzema par exemple, Lloris ou Varane. Donc il y a quand même des motifs d'espoir, évidemment.
Il y avait combien de titulaires hier qui, a priori, débuteront, commenceront la Coupe du Monde?
Ça, vous avez raison, Pascal, ça dépend si vous regardez le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si on s'en tient aux blessés, évidemment qu'une équipe qui a 7 ou 8 titulaires absents ne peut pas avoir le même niveau de jeu qu'une équipe qui a tous ses titulaires. On est tous d'accord.
Bah, c'est essentiel.
Mais dans les titulaires qui vont revenir, il y a aussi beaucoup d'interrogations sur le niveau de certains. Varane est régulièrement blessé depuis plusieurs saisons. Pogba et Kanté n'arrivent plus à enchaîner les matchs non plus. Donc hormis Benzema, où là, au niveau sportif, il y a des garanties s'il revient de blessure.
Mais Lloris,
moi j'ai le sentiment que sur le deuxième but hier, Areola, il n'est pas net.
Oui, après c'est pas Areola le gros problème du match d'hier, vous en conviendrez.
Non, mais
Pascal.
Peut-être que Lloris aurait arrêté cette frappe.
Certainement qu'avec des cadres qui seront là, le niveau de l'équipe de France va grimper. Mais encore faut-il voir dans quel état certains cadres vont revenir et combien vont revenir d'ici la Coupe du Monde.
Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit un mal pour un bien, cette défaite hier, que ça permette de ne pas se voir trop beau avant d'arriver au Qatar? Non, mais on se rappelle.
C'est toujours
y a
la même question en sport. C'est bien, on a perdu 2-0, mais c'est une bonne chose.
La défaite encore,
si c'était bien, Pascal.
Ça va permettre de.
Ça peut éviter un abus de confiance.
Bah, alors, c'est sûr qu'il y a une remise en question totale de tout le groupe. Ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas l'effet Nice-Na où il y avait quand même des brebis galeuses et des joueurs qui se prenaient pour ce qu'ils n'étaient pas. Là, pas du tout. Le groupe.
Il y avait un entraîneur aussi,
vous
peut-être.
Vous savez, la fameuse phrase.
Là, on a Deschamps quand même.
Voilà.
On pas comparé Deschamps et Domenech.
Non, mais le groupe vit bien, comme disent les joueurs de foot. L'ambiance, elle est bonne dans le groupe et tout le monde s'est rendu compte qu'il y a un problème sportif et tout le monde a envie de se retrousser les manches pour faire une belle Coupe du Monde. Donc, au niveau du groupe et de l'état d'esprit, là, il y a quand même des garanties avec en plus Deschamps aux manettes.
Mais sans parler de Nice, en 2002. Champion du monde en titre, on est censé avoir la meilleure attaque au monde avec le meilleur buteur, je crois, italien, espagnol, anglais. Et à l'arrivée, on sort au premier tour.
Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un peu aussi d'excès de confiance à ce moment-là? C'était peut-être l'inverse. Là, on est un peu plus dans le doute. Alors, on verra comment ça s'équipe. N'oubliez pas la malédiction du tenant du titre. Depuis 1998, 4 tenants du titre sur 5 ont perdu au premier tour de la Coupe du Monde suivante.
On n'y va pas, on n'y va pas au Qatar.
À part le Brésil.
De toute façon, il y a plein de gens qui veulent qu'on n'y aille pas. Donc,
non, mais l'équipe de France a quand même un très bon niveau. Et puis, les autres ne sont pas mieux. L'Angleterre est reléguée en Ligue des Nations. On n'a pas fait de résultats comme ça depuis 2014. L'Allemagne n'a pas de buteur et n'a pas de système tactique. À part l'Espagne qui a un collectif qui tourne plutôt pas mal, les autres nations ne sont pas mieux que nous en Europe. C'est les Sud-Américains qui semblent bien préparés, le Brésil et l'Argentine.
Oui, c'est ça, vous nous rassurez sur nos voisins européens, mais c'est pas l'Euro, c'est la Coupe du Monde, donc ça, ce n'est pas une garantie suffisante. Merci beaucoup Eric Silvestro, pas si pessimiste que d'autres.
Mais non, il faut que... Bah, il y a des deux côtés, voilà. Il y a du bon et du pas bon.
Plus pessimiste que moi. Merci en tout cas, Eric, sur 2022. 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites pour l'équipe de France. Dans un instant, RTL Midi, votre vie, on en parle immédiatement.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
J'ai commandé plein de choses. Un avion Barbie, une guitare électrique rose parce que j'adore ça.
Ouais.
Des poupées et des nounours.
Si vos enfants, petits-enfants, sont très, très prévoyants... Oui, mais il y en a qui sont aussi impatients, Pascal, ça existe.
27 septembre.
Ils ont peut-être déjà 26. Commencé à réfléchir à leur liste pour Noël, les enfants. En tout cas, les professionnels, eux, ils sont prêts, ça c'est sûr.
Oui.
Alors, que trouvera-t-on au pied des sapins dans un peu moins de 3 mois maintenant? Armelle Lévy, prévoyante, vous l'êtes aussi, donc vous avez planché sur le sujet. D'abord, est-ce que, comme l'an dernier, on risque des pénuries sur les jouets les plus demandés?
Et non, au contraire, ça c'est la bonne nouvelle. Ah. On ne va pas revivre le scénario de l'année dernière où les jouets commandés étaient arrivés après les fêtes. Donc justement, les magasins se sont retrouvés avec plein de stocks, trop de stocks, ils sont même blindés. Ils ont besoin de déstocker, ce qui veut dire qu'on verra plein de promotions cette année, car les enseignes ont vraiment besoin de vider leurs réserves et leurs rayons.
Tout augmente, et les jouets aussi peut-être ?
Oui, c'est vrai. En un an, le prix des jouets a augmenté de 6%, car tout augmente, le prix des matières premières, par exemple le prix du bois pour les puzzles, le coût du transport, le coût de l'énergie, les salaires aussi. Les saisonniers cette année verront sur leur fiche de paie une hausse de 8%. Mais malgré tout, les magasins de jouets disent qu'on ne devrait pas vraiment sentir la hausse sur leur catalogue, vu qu'il y a beaucoup de stocks, ce sera compensé par beaucoup de promotions.
Il y aura donc des affaires à faire, Armel, si on comprend. Et côté tendance, vous entendez ce que vous m'avez fait en voyant en studio.
J'avais pas vu ce que faire. Ah oui, il y a un dinosaure dans le studio.
C'est la star de l'année, le dino.
C'est ça, les dinosaures, ça a toujours fonctionné chez les enfants. C'est moche, c'est gros, c'est effrayant, mais ils en raffolent, les enfants des dinosaures.
Ah non, mais
ça
il fait peur,
fascine.
Celui-là, je peux vous dire. Que
oh,
là,
vous trouvez
il...
Bah, ah oui, il est assez impressionnant.
Oh. Alors, en fait, avec la sortie du film en juin dernier, Jurassic World, le monde d'après, il rencontre un succès monstre pour une fois, le héros. Ce n'est pas un T-Rex, mais les Vélociraptors, celui que vous avez, le Baby Blue, qui plaît beaucoup. Et c'est un bébé dinosaure animé que vous tenez sur le bras, hein, comme si c'était un vrai.
C'est ça, comme
il
si
fait
je l'avais
des
sur
bruits.
La main.
Mais j'ai l'impression que vous avez mis votre main à l'intérieur, non?
C'est ça, en fait,
ouais,
c'est
comme une marionnette.
Une marionnette, mais vous voyez, qui fait du bruit si on la caresse, qui ouvre la bouche, qui ferme les yeux.
Ça va être une star
de Noël. Ça vaut combien,
Noël,
ça?
ça coûte 99,99 €.
Ah, c'est pas donné quand même.
Non, non, pour ne pas dire
après l'émission, parce que je vous préviens.
90 € le dinosaure, c'est pas donné.
Ah, c'est vrai. Mais alors, il a beaucoup de fonctions. On trouve beaucoup de peluches et de figurines dinosaures avec les univers de jeux. Ça permet aux enfants de recréer leur propre histoire. On a des jeux éducatifs et scientifiques autour des dinosaures. Il était une fois les dinosaures et les volcans du monde. Vous jouez au paléontologue pour casser des œufs de dinosaures. Et il y a aussi beaucoup de jeux de société cette année. Pour les plus petits, il faut les dessiner, le dingo dino. On a le dinosable en loisirs créatifs. Et pour les plus grands, la vallée des dinosaures. Vous devez traverser la jungle et survivre aux créatures préhistoriques.
Bon, il y a des super-héros également ?
Oui, en réalité, dans le monde des jouets, une vente sur quatre, c'est un produit dérivé d'un film, d'une série, d'un dessin animé ou d'une BD. Donc cela va des figurines de super-héros avec leur véhicule à leur version Lego à construire en passant par les jeux de plateau et les jeux de cartes. Dans le top 5 des ventes, on retrouve les grands classiques, Pokémon, Pat Patrouille, Barbie. On en parlait, on vous avait cité tout à l'heure une petite fille qui rêvait d'une Barbie. Cette année, il y a un nouveau film qui va sortir. Il y a les héros Marvel aussi, Harry Potter. Mais il y a beaucoup de super-héros qui arrivent. Le chien Bloué avec sa maison complète. Spidey, c'est le Spider-Man des plus petits avec ses amis, son quartier général. Le bus qui permet d'envoyer des toiles. Et en octobre, il y aura la sortie du film Dragon Ball Z. Donc on voit déjà beaucoup de jouets dérivés. Sans oublier les mangas, le ninja Naruto décliné en jeu de plateau avec l'arène de combat. Et One Piece décliné aussi en jeu de plateau avec des cartes.
Et Armel, pour les parents qui souhaitent un Noël éthique, ça existe, les jouets éthiques, ils ont la cote en ce moment ?
Oui, avec des jouets éco-conçus, mais ça coûte un peu plus cher. Par exemple, en plastique recyclé, je vous citerai Playmobil qui sort une gamme Viltopia, des figurines de la forêt amazonienne, à base de rebut de réfrigérateur. C'est du plastique de frigo recyclé.
Pour faire des
tigres en plastique, avant c'était un frigo. Sans oublier le retour du Made in France. Alors là, c'est 15% du marché du jouet. On s'en sort bien, on a de belles marques. Je vous citerai juste l'exemple de l'ours Gaston. Un ours en peluche qui mesure 1 mètre de haut, fabriqué à Saumur. Il coûte 50 €. 30 € de moins que s'il était fabriqué en Chine. Avec le coût du transport et des conteneurs, c'est moins cher de le fabriquer ici. L'entreprise Piu Piu et Merveille a tout relocalisé en France.
Et puis, on n'a pas parlé des jeux de société, mais ça existe toujours, j'imagine.
Ah ben bah oui, oui, mais alors c'est décliné avec les figurines. Il y a même, effectivement, en escape game cette année.
Dans le chandelier, avec un chandelier a tué Madame Rose dans la véranda, voilà.
Et puis
on peut aussi offrir des livres parfois aux enfants. C'est pas un jouet, mais c'est intéressant l'idée d'offrir des livres à Noël aux enfants. C'est quoi cette petite musique, Monsieur Damien Béchiot ?
Une petite musique de Noël pour vous faire plaisir, Pascal.
Je trouve qu'on commence un peu tôt Noël cette année.
Hein. C'est dans 3 mois.
La semaine dernière, déjà, nous avons pendant les auditeurs écouté des chants de Noël, et là, on est au jouet.
Mais on se prépare, Pascal.
Demain, nous parlerons des autres Pâques, si vous le voulez, de 12h27. C'est RTL Midi, votre vie. L'info revient dans quelques instants avec le journal de 12h30 et le gouvernement qui veut s'attaquer aux arrêts maladie de complaisance. Voilà un bon sujet.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, et merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Le quoi qu'il en coûte est loin derrière nous. Le gouvernement présente son budget et prévient le pays est à l'euro près. L'exécutif entend donc traquer la fraude et notamment les arrêts médicaux de complaisance. Accusé de violence psychologique contre son ex-compagne, Julien Bayou quitte la tête de son parti, mis sous pression notamment par Sandrine Rousseau. Une CPE rouée de coups par des élèves à Toulouse. La coalition des droites qui s'impose en Italie et Giorgia Meloni qui sera certainement la future première ministre du pays. Mais avec quel programme, pour faire quoi, quelles conséquences en Europe? On y revient après le journal avec Bénédicte Tassard et Marie Mollet. Votre rendez-vous culture, LVT Midi, juste avant 13h, avec aujourd'hui les confidences d'un homme qui a vendu 80 millions d'albums dans le monde. Vous aurez reconnu Robbie Williams. La question du jour sur RTL.fr, avez-vous rallumé le chauffage chez vous?
On en parlera évidemment à 13h dans les auditeurs ont la parole. On
ça interrogera. Vous laisse sans voix, Pascal. Mais oui, mais bien j'essaie sûr, que de je mettre regarde. Un peu d'envie d'entrain.
Je regardais notre ami Bodin qui souriait, pensait sans doute aux températures. Mais j'ai dit tout à l'heure que j'avais rallumé le chauffage, je ne vais pas le dire deux fois. 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut toujours avoir un chauffage individuel au gaz. Parce qu'au moins, vous êtes moteur, de, si j'ose dire, de votre chauffage. Mais si vous êtes dans un chauffage collectif, bah, vous avez froid en septembre, en octobre et en avril.
Alors, sur le chauffage individuel, peut-être sur le gaz, ça peut se discuter en ce moment. Oui. Un mot de la tendance météo, quand même, Louis Baudin.
Oui, bah, ouais, en plus, c'est une journée d'automne, hein, des nuages, de la pluie, de la fraîcheur, effectivement, dans la plupart des régions.
Merci, Louis. Météo complète après le journal.
Jusqu'à 13h, RTL Midi.
La France est à l'euro près. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a donné le ton du budget 2023 qui va arriver à l'Assemblée nationale cette semaine. Et pour faire des économies, le gouvernement veut davantage traquer la fraude sociale, y compris, Agathe Landais, les arrêts maladie de complaisance.
Oui, car l'assurance maladie dit constater ces derniers mois une explosion des arrêts maladie prescrits en téléconsultation. Or, depuis le Covid, ces consultations en visio sont remboursées à 100% pour faciliter les isolements, obtenir plus vite un arrêt maladie. L'an dernier, ça a coûté 100 millions d'euros à la Sécurité sociale. Évidemment, toutes ces téléconsultations ne sont pas abusives, mais le gouvernement estime qu'il y a des dérives et des économies à faire. Il propose donc que ne soient remboursés que les arrêts maladie délivrés en visio par le médecin traitant ou un médecin déjà consulté dans l'année. Attention toutefois à ne pas pénaliser les patients qui peinent déjà à trouver des rendez-vous chez le médecin, explique le docteur Jérôme Marty du syndicat Union française pour une médecine libre.
On sait bien qu'il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. On sait bien les difficultés d'accès aux soins des Français. Ça veut dire que, puisque le gouvernement a pris cette décision, parallèlement à celle-là, il faut qu'en urgence, ils se saisissent du problème d'attractivité de la médecine de ville pour qu'il y ait plus de médecins qui s'installent.
Le gouvernement n'a pas chiffré combien pourrait rapporter cette mesure qui pourrait entrer en vigueur le 1er juin prochain.
Merci Agathe Landais. Autre point du budget présenté ce matin, la création de plus de 10 700 postes supplémentaires de fonctionnaires pour l'État. Une enveloppe de 935 millions d'euros pour augmenter le salaire des enseignants ou encore l'augmentation des prix du tabac qui devrait être calquée sur l'inflation.
RTL Midi.
Elle a été rouée de coups par des élèves. Une conseillère principale d'éducation a été violemment prise à partie et a décidé de porter plainte à Toulouse.
Oui, alors qu'elle intervenait pour séparer deux adolescentes qui se battaient. C'est elle, cette CPE du collège Stendhal, qui a fini sous une pluie de coups jusqu'à ce qu'un professeur intervienne, Patrick Tégéro.
Oui, et cet enseignant a eu le renfort d'un élève qui a eu le courage de s'interposer contre ses camarades. Eh bien, cette conseillère principale d'éducation a été bousculée d'abord, elle a chuté, deux bagarreuses se sont retournées contre elle pour lui donner des coups de pied et des coups de poing. Six autres adolescents en ont profité pour faire de même et il faudra donc l'intervention d'un enseignant et d'un élève pour faire cesser toutes ces violences. Ce collège est situé en zone d'éducation prioritaire, dans un quartier difficile, mais il n'y avait pas eu d'incident ici depuis de nombreuses années. Les six collégiens ont été bien sûr exclus immédiatement avant de passer en conseil de discipline. Mustapha Fourard est le recteur de l'Académie de Toulouse.
D'abord, une condamnation ferme de cet acte de violence à l'intérieur d'un établissement scolaire. Moi, j'en appelle à leur responsabilité parce qu'ils sont vraiment responsables des actes de leurs enfants. Et donc, la sanction qui pourra être décidée au conseil de discipline pourrait être exemplaire parce qu'on ne peut pas accepter ce type de comportement.
Quant à la conseillère d'éducation, elle va bien, elle n'a pas souhaité prendre de congé particulier, mais sur les conseils du rectorat, elle a porté plainte, ainsi que la principale du collège, pour que les sanctions ne soient pas seulement disciplinaires, mais judiciaires également.
Patrick Tégéro à Toulouse pour RTL. Le procès Mia suspendu après la requête en récusation visant la présidente. Requête déposée par les avocats de la conductrice qui dénonce l'impartialité de cette présidente. La conductrice du car scolaire qui avait été percutée par un TER après s'être engagée sur un passage à niveau provoquant la mort de 6 adolescents en décembre 2017 est quant à elle toujours hospitalisée après son malaise lors de l'audience jeudi dernier.
Il aura tenu une semaine, mais ce matin, Julien Bayou a annoncé sa mise en retrait.
Accusé de...
J'allais dire sa mise au vert.
C'est un jeu de mots qui vous appartient.
Oui,
accusé de violence psychologique par son ex-compagne, des faits qui ont été dénoncés par Sandrine Rousseau en direct à la télévision. Le désormais ex-secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts donc quitte la tête du parti, Marie-Bénédicte Allaire, contraint et forcé.
Oui, et il tient à faire savoir que ce départ est contraint et forcé. Julien Bayou dit qu'il ne peut pas se défendre, il dit qu'on ne veut pas l'entendre. Il s'étonne de ne toujours pas connaître précisément les faits qu'on lui reproche et rappelle que rien ne semble pénalement répréhensible. possible. Situation kafkaïenne, d'après lui, qui de toute façon devait quitter la tête des Verts après son élection comme député. Il ne pouvait pas cumuler. Précisons qu'il n'a pour le moment aucune intention de démissionner de l'Assemblée nationale. Mais cette mise en retrait du parti arrive en pleine tempête interne chez Europe Écologie. La direction sortante vient d'être mise en échec dans une consultation sur la réforme des statuts. Et Sandrine Rousseau, actuellement minoritaire, ambitionne de voir l'une de ses proches à la tête du parti écologiste. Bref, comme un goût de déjà-vu chez les écolos, ils sont enfin redevenus visibles à l'Assemblée, mais ces turbulences semblent les faire retomber dans leur vieux travers.
Merci Marie-Bénédicte, à l'heure du service politique d'RTL.
C'est donc, en tout cas, c'est ce qu'elle avait dit il y a plusieurs années, une ex-fan de Mussolini qui a conquis l'Italie.
Giorgia Meloni, à la tête du parti Fratelli d'Italia, est arrivée en tête hier et grâce à la coalition des droites, elle devrait devenir la future première ministre du pays. Victoire saluée ce matin sur RTL par Marion Maréchal, la vice-présidente du parti Reconquête.
Je suis très heureuse de voir ce parti arriver aux affaires. Un parti, je le précise, qui n'est pas d'extrême droite, mais un parti plus classiquement conservateur, comme on en voit d'autres en Europe. Et je crois que nous avons, à travers Meloni, un modèle de volonté qui bénéficie de sa cohérence, de sa clarté et dans ses convictions. Elle n'a fait aucune compromission, contrairement à d'autres. Elle a refusé d'entrer dans le gouvernement technique Draghi et je crois qu'elle en est aujourd'hui récompensée et surtout c'est la récompense d'une stratégie, la méthode d'une femme qui a défendu, malgré parfois les difficultés à faire cohabiter tous ces mouvements, l'idée d'une coalition à droite, de ce rassemblement des droites pour gagner. Et je crois qu'en France on devrait avancer aussi vers cette hypothèse.
Marion Maréchal, invitée ce matin d'Amandine Bégaud dans RTL Matin. Alors, qu'est-ce que change ce scrutin italien pour nous, pour l'Europe et évidemment en premier lieu pour les Italiens? On y revient longuement après ce journal avec Bénédicte Tassard et Marie Mollet.
Et avec les auditeurs, on pourra les interroger. Est-ce que vous souhaitez cette union des droites en France? En Russie, les actions contre la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine se multiplient.
Manifestation dans le Caucase, notamment une centaine de personnes a été interpellée hier dans cette région qui a déjà payé un lourd tribut en vie humaine depuis le début de la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, Félix Grasso, c'est en Sibérie qu'une fusillade a éclaté dans un centre de recrutement.
La scène a été postée sur les réseaux sociaux. Tout s'est déroulé à la vitesse de l'éclair lorsqu'un homme fait irruption dans un centre de mobilisation. On y voit encore les hommes présents se lever et se réfugier à toute vitesse dans une petite salle attenante au local principal. Quant au tireur, il a été appréhendé. Il s'agit d'un jeune homme de 25 ans, issu de cette ville d'Oust-Ilimsk, en Sibérie, à 600 km au nord d'Irkoutsk. Il a reconnu que son geste était en rapport avec ce qu'il se passe actuellement dans le sud-est de l'Ukraine. En tirant sur le responsable militaire de ce centre de mobilisation, il dit avoir exprimé sa position par rapport à la mobilisation partielle décrétée la semaine dernière par Vladimir Poutine. Une illustration tragique de la contestation qui progresse à bas bruit dans la société russe. Depuis la semaine dernière, on perçoit en effet une certaine tension au sein de la société et tout le monde redoute de nouvelles vagues de mobilisation au cours des prochaines semaines.
Félix Grasso, correspondant de RTL en Russie. La Russie également endeuillée par une fusillade dans une école d'Ijevsk dans le centre du pays. Aujourd'hui, 13 personnes ont été tuées, dont 7 enfants.
Il va falloir montrer autre chose dans 2 mois au Qatar. On parle football, bien évidemment. L'équipe de France n'a pas rassuré, loin s'en faut, hier soir face au Danemark.
Une défaite 2-0 pour ce dernier match de préparation. Les champions du monde titre malmené face aux Danois en panne d'inspiration, inquiétant. Et alors que l'on a presque plus parlé des affaires que du jeu ces dernières semaines, certains redoutent un nouveau fiasco, comme en 2002 lorsqu'il s'agissait de défendre le premier titre de champion du monde, Philippe Sanfourche.
Oui, c'est vrai qu'on peut relever quelques similitudes troublantes avec 2002. 20 ans après, les Bleus possèdent aussi sur le papier la meilleure attaque du monde. La paire Mbappé-Benzema a remplacé le duo Trezeguet-Henry, mais flottent les mêmes incertitudes sur l'état de santé de plusieurs cadres. Hier, la cuisse de Zizou. Aujourd'hui, le genou de Pogba, avec les Danois dans la même poule de qualification. Face à tant de fantômes, les Bleus seraient bien tentés de s'en remettre à un marabout, mais le buteur Olivier Giroud préfère rappeler ce qui fonctionne encore.
Il ne faut pas noircir le tableau non plus, mais il faut tirer les enseignements et essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Même s'il y a des fêtes, ça ne change pas le super état d'esprit qu'il y a au sein de ce groupe et la solidarité qu'il y a entre nous.
Bousculé depuis juin, revanchard du dernier Euro, les Bleus, contrairement à 2002, ne seront au moins pas gagnés par l'excès de confiance, d'autant qu'ils connaissent aussi la malédiction du champion du monde en titre. 4 des 5 derniers ayant ensuite été éliminés au premier tour.
Philippe Sanfourche, du service des sports d'RTL. La météo, on vous retrouve Louis Baudin.
chauffage ou pas, en tout cas il fait froid.
En tout cas il fait frais, c'est clair que les températures sont et seront en dessous des moyennes de saison dans la plupart des régions cet après-midi. On peut commencer par ça, nous serons entre 14 et 17 degrés hein, seulement dans la moitié nord, ce sont plutôt des températures d'octobre, et puis dans le sud ce sera un peu mieux, 17 à 22 degrés, parfois un peu plus près de la Méditerranée, où là le soleil devrait résister quand même cet après-midi, tout comme près des Pyrénées. Mais ailleurs ce sont bien les nuages qui l'emporteront avec le passage d'une vraie perturbation, si je puis dire, dans la moitié nord. C'est une très bonne nouvelle, ça va ramollir les sols, donc petit à petit les pluies vont pouvoir s'infiltrer et donc commencer à remplir les nappes phréatiques, des pluies qui seront suivies hein, de neige dans les Alpes du Nord en fin de journée, dès 1500 ou 1700 mètres.
Merci Louis.
Dans un instant, Giorgia Meloni, qui est-elle? Quel est son programme? Est-ce qu'elle avance masquée ou pas? Est-ce que ça va changer des choses en Europe? A tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Questo è il tempo in cui se si vuole far parte della
storia. Voici venu le temps où si l'on veut faire partie de l'histoire, il faut comprendre la responsabilité que nous avons envers des millions de personnes, parce que l'Italie nous a choisis et nous ne la trahirons pas.
Come non l'abbiamo tradita mai.
Giorgia Meloni, cette nuit, après l'annonce des résultats, la plaçant en tête, elle et son parti Fratelli d'Italia, grâce à la coalition des droites, elle devrait donc devenir la future première ministre italienne. Pour revenir sur cette victoire et ses conséquences, on accueille Bénédicte Tassard, chef du service étranger d'RTL.
Rebonjour.
Et Marie Mollet, du service politique. Bonjour Marie.
Bonjour.
La coalition des droites, donc, avec à sa tête ce parti qu'on présente néo-fasciste de Giorgia Meloni. D'abord, quand on parle de néo-fascisme, on parle de quoi exactement, Marie ?
Alors d'abord, le néofascisme, c'est une filiation politique. Ça veut dire que c'est des partis qui s'inscrivent dans une forme de continuité avec le fascisme. Historiquement, c'est d'abord le MSI, le mouvement national, le mouvement social italien, fondé en 1946 par des dignitaires de la République de Salo, dans lequel Giorgia Meloni a milité quand elle avait 15 ans. À l'époque, elle disait sans complexe toute l'admiration qu'elle portait à Benito Mussolini. La devise du parti, c'était ne pas renier, ne pas restaurer. Et puis le MSI a été dissous. C'est le parti Alliance Nationale qui reprend le flambeau avec la figure de Gianfranco Fini, qui lui va opérer un recentrage et un reniement de l'héritage fasciste au point de devenir le bras droit de Silvio Berlusconi. Et puis 2012, c'est la fondation de Fratelli d'Italia par Giorgia Meloni qui, elle, avec d'autres, refusait la normalisation à outrance. Elle voulait opérer une sorte de retour aux sources du MSI en ressuscitant, notamment, c'est l'exemple qui est beaucoup cité, ce logo, cette flamme tricolore qui était celle du MSI. Donc néo-fasciste, c'est d'abord ça, c'est s'inscrire dans une forme de continuité.
Ce qui est intéressant, c'est quand même d'examiner le programme. Est-ce qu'il y a dans le programme des éléments néo-fascistes ? Parce qu'une flamme ne fait pas de vous un néo-fasciste.
Le programme, il est très libéral. C'est d'ailleurs pour ça que les patrons ne sont pas vent debout, le système économique n'est pas vent debout. La coalition de Mme Meloni, on dit au patron qu'on va plafonner les impôts, qu'on va lutter contre la bureaucratie, les chefs d'entreprise vont avoir davantage de liberté. Mais le programme, c'est aussi et surtout, c'est la migration. Les migrants et ce fameux blocus militaire promis aux Italiens. Les migrants ne pourraient plus débarquer en Italie, notamment à Lampedusa. Là, ça va heurter que certains. Programme aussi très centré sur le modèle classique, entre guillemets. Ce n'est pas mon modèle, mais le modèle qu'elle dit classique de la famille. Non à l'adoption par les parents homosexuels, l'avortement stigmatisé. Meloni, elle veut rester dans la zone euro.
Mais l'avortement, par exemple, elle n'imagine pas revenir sur
elle
le
droit. Elle ne va pas revenir sur l'avortement, mais elle va le stigmatiser. Elle va faire en sorte que ça soit très difficile, comme le fait Viktor Orban aujourd'hui, en Hongrie.
Comment on explique une telle victoire de la coalition, Bénédicte ?
D'abord, il y a l'état de l'Italie. L'état de l'Italie, c'est un pays qui décroche économiquement depuis 20 ans avec des soucis de productivité, d'innovation, une dette énorme, 150% son produit intérieur brut, un pays qui décline démographiquement, qui vieillit. Les femmes en Italie font leur premier enfant après 35 ans, en moyenne. C'est une moyenne, bien sûr. Alors jusque-là, et jusqu'à il y a peu, les Italiens rejetaient la faute sur l'Europe. Mais le plan de relance actuel qu'on connaît, le plan de relance post-Covid, qui fait de l'Italie le premier bénéficiaire de ce plan, fait changer d'avis les Italiens actuellement sur Bruxelles. C'est pour ça que Mme Meloni, qui était anti-Europe, ne l'est plus trop.
Elle ne l'est pas, d'ailleurs, mais elle veut, visiblement, elle milite pour une Europe confédérale qui respecte la souveraineté des États membres en leur laissant le soin de décider de la politique de proximité. C'est ce
oui, c'est ça, si vous voulez, Mélanie, elle respecte la démocratie, mais elle se veut autoritaire, nationaliste. C'est une droite radicale, populiste, qui refuse de condamner Mussolini, mais qui se veut moderne.
Cette coalition des droites qu'on observe donc en Italie, ce serait transposable en France, vous qui suivez tous ces partis, Marie Mollet ?
Alors non, dans cette forme-là, c'est absolument pas transposable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Italie, tous les scrutins ont une dose de proportionnel. Donc en fait, il y a une obligation de faire des coalitions et de faire des alliances politiques. C'est déjà le cas dans les exécutifs locaux et c'est déjà le cas dans les gouvernements depuis en fait presque plus de 30 ans. Le tabou du cordon sanitaire tel qu'on pourrait en parler ici en France, il est tombé en 94. C'est Silvio Berlusconi qui fait rentrer au gouvernement 5 ministres venus des rangs du MSI, parti post-fasciste. Et effectivement, ce cordon-là, ce tabou-là est tombé depuis longtemps et ça fait plus de 30 ans. Donc ça, c'est quand même majeur. Alors qu'on ne peut absolument pas imaginer Marine Le Pen se lancer dans des alliances d'appareils à court ou moyen terme, même si ce matin, elle veut faire de la victoire de Meloni un signe avant-coureur de sa propre victoire. Elle sait elle-même que c'est un autre contexte qui n'a rien à voir.
En tout cas, c'est un sujet absolument passionnant qui fera réagir nos auditeurs. Est-ce que cette union des droites est possible en France ? Comment vous qualifiez Giorgia Meloni à l'aune de notre discussion, mais également de son programme ? Voilà un sujet qui est très intéressant. Je cite simplement Julien Drey, homme de gauche, proche de François Mitterrand en son temps, qui a dit « Si la gauche française pouvait éviter de dire n'importe quoi sur les élections italiennes, ce serait utile. Non, le fascisme ne triomphe pas en Italie. C'est une situation complexe, compliquée. Il faut d'ailleurs attendre les résultats définitif, a-t-il dit. A tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi jusqu'à 13h.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
Ça, c'est le titre évidemment emblématique de Robbie Williams. La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Et aujourd'hui, c'est donc une star mondiale qui s'invite grâce à vous, Stephen Bellery. Bonjour. C'est
bonjour
l'une des pop-stars les plus populaires des années 2000, notamment avec ce titre.
Robbie Williams, qui est de retour avec 25 compilations qui célèbrent ses 25 ans de carrière solo, Stephen. Le chanteur britannique aux 80 millions d'albums vendus, 80 millions. N'est pas sorti indemne de ce tourbillon. Vous l'avez rencontré pour ce qu'on appelle une interview vérité.
Oui, car Robbie Williams n'a pas sa langue dans sa poche. C'est assez rare, hein, au rayon pop. À 48 ans, la star réinvente ses tubes avec un grand orchestre, l'occasion de réaliser le nombre impressionnant de tubes qu'il a signé depuis 1997. Il est d'ailleurs devenu, avec ce best-of symphonique, l'artiste solo ayant cumulé le plus grand nombre d'albums classés numéro 1 des ventes au Royaume-Uni. Il bat ainsi Elvis Presley. Question à Robbie, ressent-il une forme de fierté ?
De la fierté, j'en suis pas sûr. Ça me paraît juste complètement fou. Je me dis juste, ah, je l'ai fait. Je crois que le fil rouge, c'est mon âme. Ces chansons, ce sont des parties de ma vie, de journaux intimes, d'époque d'un mec qui luttait, qui essayait de mettre de l'humeur sur ses pensées obscures. La nostalgie m'est indifférente. Heureusement, pas pour les gens qui font que ma carrière dure encore.
Évoque des pensées obscures. Steven, de quoi parle-t-il ?
Eh bien, après des débuts tonitruants dans le boys band Take That, Robbie Williams s'envole en solitaire. Pourtant, en coulisses, le chanteur s'enfonce dans l'alcool, la drogue et la dépression. Il s'est inspiré de cette période sombre pour écrire le seul titre inédit de la compilation, la chanson Lost, perdu en français, Confidence.
It's a sad moment, from 1990. C'est un moment très triste de 95 à 2001, où le monde tournait sur lui-même pour moi. And I couldn't find joy. Je ne trouvais de joie dans rien. À cause de mes problèmes personnels, de mes actions, de mes réactions à ce que le monde me proposait, j'ai pris un billet gratuit pour l'enfer. Et là, je chante ces moments avec le confort d'être arrivé de l'autre côté du tunnel. Je ressens néanmoins toujours ce sentiment d'isolement. Se réveiller,
ouvrir les yeux et se dire « Ouais, je vais rester là aujourd'hui, je suis bien ici. Mon endroit préféré, c'est le lit. Je pense que je serais devenu comme ça, même si j'étais devenu électricien ou mécanicien. Je suis juste devenu dépressif plus vite, parce que beaucoup de gens me connaissent. »
Aujourd'hui, Robbie, vous allez mieux ?
Oui, je n'ai jamais été aussi bien, je crois. Malheureusement, j'ai vraiment vécu la gloire sous narcotiques. La drogue, ça te donne l'illusion de ce que c'est d'aller bien. Tu as la sensation d'être le plus grand, le plus rapide, le plus fort, drôle, intelligent et sexy sur la planète. Et si tu ne te sens pas comme ça, eh bien quelque chose te manque. J'avais oublié ce que c'était la normalité. Je me sens toujours bizarre dans ma peau, mais aujourd'hui est une bonne journée.
Le démon que Robbie Williams a dû combattre, Steven.
Non, le chanteur souffre aussi d'anxiété sociale. Il a peur de la foule, notamment. Je lui ai alors demandé comment il avait pu devenir une bête de scène quand le public l'effraie. Quid de cette phobie des autres ?
Non, je ne le ressentais pas sur scène, parce qu'il y a une distance avec le public. J'arrivais à la contrôler. Mais dans le vrai monde, il y a beaucoup de choses incontrôlables pour moi. Ce qui fait que je me sens rarement en sécurité. De fait, je suis incapable de faire beaucoup de choses normales pour les gens. Je souffre aussi de troubles de l'attention. Je suis incapable de me concentrer longtemps sur quelque chose. Ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup d'idées et par bonheur, les gens s'y intéressent.
Parler de soi comme ça avec beaucoup de lucidité, finalement.
Ouais, beaucoup d'honnêteté, de transparence. Millennium, qu'on entend, immense tube hein, de 1998, Robbie Williams publiera un nouvel album au printemps de chansons inédites, il me l'a promis, sortie qui coïncidera avec sa nouvelle tournée. Il l'a annoncé ce matin, il chantera le 20 mars 2023 à Paris-Bercy, ouverture de la billetterie ce vendredi.
Steven, vous connaissez bien des rockstars, des popstars et des artistes. Est-ce qu'un artiste peut être normal ? Est-ce qu'il y en a ?
Ben non, parce que sinon on les admirerait pas.
Alors il y a quand même quelques exceptions. Jean-Jacques Goldman a une vie classique, on va dire. Assez. Céline Dion également et
Céline Dion, classique. Céline Dion, j'avais demandé un jour pourquoi elle reprenait Ordinaire de Charlebois. Comment on fait pour chanter Ordinaire quand on s'appelle Céline Dion ? Elle m'avait dit mais je suis tout sauf ordinaire quand je suis face à vous sur une scène, mais je suis une fille normale.
Merci Steven, c'était un plaisir et comme tous les jours, régulièrement avec LVT en tout cas, à 13h ce sont les auditeurs qui prennent la parole.
RTL Midi.